concernant les enjeux climatiques. Ça, c'est une évidence, c'est-à-dire que nous n'avons pas aujourd'hui les mécanismes pour limiter le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. Donc en ce sens, la déception qui est exprimée par les ONG, qui est exprimée par un certain nombre d'acteurs, est justifiée, puisque le principal objectif aujourd'hui, c'est bel et bien, quels que soient les instruments, les mécanismes, d'arriver à prendre les décisions qui permettent de ne pas dépasser les 2 degrés. Et aujourd'hui, nous sommes avec les mécanismes existants sur une échelle de 4 à 6 degrés d'augmentation. Et avec un certain nombre d'études que vous connaissez aussi bien que moi, c'est à prendre dans le domaine climatique, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de possibilité ensuite de revenir en arrière. Donc si on dépasse ces 2 degrés d'ici les 10, 20, 40 prochaines années, ça a un coût qui est évalué aussi en termes d'impact naturel et de changement climatique, un coût financier qui est phénoménal. Donc le verre à moitié vide pour ce qui concerne les engagements climatiques à proprement parler est le premier objectif de la Convention climat. Verre à moitié plein, parce qu'en fait, il y a une avancée qui a été assez difficile à obtenir sous l'impulsion de l'Union européenne. Donc moi, c'est aussi pour ça que je me suis réjouie de la place de l'Union européenne, parce que j'ai le sentiment que c'est vraiment la première fois, après Nagoya, ça avait commencé à s'esquisser à Nagoya, depuis qu'elle a la personnalité juridique au regard du traité de Lisbonne. À Nagoya déjà, donc au sommet de la Convention pour la biodiversité, la Commission avait un mandat du Conseil et la position de l'Union européenne en tant que négociateur parlait d'une voix unique, c'est-à-dire que l'ensemble des États membres présents étaient dans le mandat fixé par le Conseil, c'est-à-dire le mandat qu'ils avaient prédéterminé et défini au sein de l'Union européenne, au sein du Conseil de l'Union européenne. Ça a été la même chose à Durban, en tout cas sur l'essentiel, à une ou deux exceptions près, notamment la présidence polonaise qui n'a pas totalement joué le jeu. Dans le cadre des discussions d'éléments techniques d'adaptation et d'amélioration du protocole de Kyoto, notamment sur la question de l'air chaud, puisque ce sont essentiellement les pays de l'Est qui sont concernés. Un des exemples où quand l'Union européenne, dans le cadre des négociations internationales, ne parle pas d'une seule et unique voix et que les 27 États commencent à se diviser sur une question où on n'arrive pas à avancer sur les sujets. Moi, je voulais retenir cette leçon-là du sommet. Les discussions étaient difficiles et elles ont essentiellement porté sur la forme. C'est pour ça qu'on n'a pas pu aller jusqu'au fond et au contenu et sur les mesures susceptibles de lutter contre le dérèglement climatique. Sur la forme, il y avait trois grands dossiers. La poursuite ou non du protocole de Kyoto a été une vraie question et a occupé les discussions pendant toute la première semaine, puisqu'il arrive à son terme en 2012. Que pour le moment, c'est le seul instrument juridiquement contraignant qui. Alors, on pourra en parler. Moi, je n'ai jamais été très fan du protocole de Kyoto. Aujourd'hui, notamment en raison de la crise économique, on voit que le mécanisme de système de marché carbone, pareil, révèle une certaine inefficacité. On pourrait discuter dans le fond de tout ça, mais pour le moment, il faut se dire les choses. C'est le seul instrument juridiquement contraignant. Donc s'il s'arrêtait demain sans nouvel instrument, on se retrouverait sur la base de la bonne volonté de l'ensemble des États de la communauté internationale. Et pour le moment, la bonne volonté n'a pas particulièrement produit d'effet positif. Donc ce serait un recul. Donc il y avait cette première question, difficile. Et puis deux autres sujets étaient discutés. C'est les conclusions de Copenhague et du sommet de Cancun. D'une part, une feuille de route globale, donc un nouvel outil qui encadrerait l'ensemble des États de la communauté internationale partis à la Convention sur le climat. Et sur ce sujet-là, on n'a pas discuté du fond des mesures que pouvait contenir cette feuille de route, c'est-à-dire à quelle hauteur les États s'engageaient, sur quel calendrier, etc., puisque nous sommes restés bloqués à deux questions. La première, c'est le caractère juridiquement contraignant de cette feuille de route. Et aujourd'hui, le texte final, moi je ne l'ai toujours pas, il est arrivé hier, mais apparemment les trois options qui étaient discutées sont restées ouvertes. Donc on n'est toujours pas totalement fixé sur le caractère juridiquement contraignant et dans quelle mesure il sera juridiquement contraignant. Et le délai, il y a eu une grosse, grosse discussion, puisque l'Union européenne portait le fait qu'on se donnait 2015, donc prolongation du protocole de Kyoto 2015-2017, on se donnait 4 ans pour fixer l'ensemble du contenu de cette feuille de route et les engagements de chaque État. Et ensuite, on se donnait 5 ans pour, ce qui est déjà énorme, hein, très très long, au regard de la course, pour sa mise en application. L'Union européenne était au départ, on se donne 5 ans, en 4 ans en 2015, c'est applicable. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, ont, dans la négociation poussée pour que tout commence à 2020. Et les discussions donc portaient initialement sur le fait qu'on définit les engagements pour 2020. Et donc il y a une espèce de compromis qui a été trouvé, que les engagements soient définis pour 2015 et arrêtés en 2015 pour rentrer en application en 2020. On les définit en 2015, les États ensuite 4-5 ans pour se mettre en situation et caractère contraignant, puisqu'on devrait aller faire ça, je pense que c'est vraiment l'objectif, applicable à partir de 2020. Et puis troisième outil, le fonds vert, donc cette espèce de ça, c'est aussi, on va dire, nouvelle institution, on sort de Durban avec une fois encore une nouvelle institution, qui est ce fonds vert, donc qui a été acté, défini. Il y a eu beaucoup de discussions sur la gouvernance avec un principal, c'est surtout les États-Unis. Ils ne voulaient pas que la gestion de ce fonds vert se fasse sous l'égide de l'organe, enfin de la Convention climat. Il y a eu un certain nombre de discussions assez obscures. Je ne suis pas très sûre que ce soit vraiment des discussions de fond. Parfois, dans les négociations, il y a des arguments de fond qui sont avancés, qui en fait sont juste des manœuvres pour ralentir.
Mais c'est quoi ce fonds vert là ?
Alors, le fonds vert, c'est une nouvelle banque qui a pour objet, je vais résumer comme ça, hein, une nouvelle banque qui a pour objet.
Mais c'est un projet ou c'est...
Non, ça y est, il est acté, il existe. Il avait été acté à Cancun et là, il a été validé. C'est une espèce de nouvelle banque, enfin un fonds, dont les fonds servent aux pays développés, pays en voie de développement, pardon. C'est un fonds d'adaptation et la mitigation en français.
Activation.
Oui, enfin donc c'est un fonds qui doit principalement servir à l'adaptation et au développement des pays en voie de développement. Et un certain nombre de projets sur les pays émergents, c'est là que ça se discutait justement, qui doit en profiter, puisque les pays émergents veulent en profiter autant que les pays en voie de développement, ils ne veulent pas avoir le même statut que les pays développés, donc pour permettre le développement des énergies propres dans les pays du Sud. Donc là, on sort de Durban avec l'institution, donc c'est une nouveauté.
Oui, mais ce fonds, il est...